Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Présence à l'occasion de ce nouveau numéro de Métropolez-vous. Très heureux de vous retrouver pour continuer en votre compagnie notre série d'émissions dédiées à la découverte des communes de Toulouse Métropole, qui en compte 37 à ce jour, je le rappelle en passant, après avoir consacré récemment des numéros à Quinfonsgrive et L'Union, deux communes de l'est du territoire métropolitain. Place maintenant à Villeneuve-Tolosane, une commune du sud, et ce sera d'ailleurs la première que nous aborderons dans cette partie de la métropole toulousaine. Villeneuve-Tolosane, c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps, mais qui présente bien des particularités, pour ne pas dire des étrangetés, comme vous pourrez le constater durant cette émission. C'est aussi une des petites communes métropolitaines, avec sa surface à peine supérieure à 500 hectares, qui accueille tout de même près de 10 000 habitants à ce jour, un territoire en devenir que je vous propose de découvrir à travers le temps, lors de ce numéro consacré à la longue histoire de Villeneuve-Tolosane. Et pour nous et vous plonger dans cette longue histoire de Villeneuve-Tolosane et de son territoire, j'ai la grande chance de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Jean Lagravert, un habitant et un natif de la commune, également membre de l'association Histoire, Loisirs et Culture de Villeneuve-Tolosane. Merci d'avoir répondu à mon invitation, monsieur. Bienvenue à vous aussi, bien sûr. Vous êtes donc très attaché à votre commune. Vous n'êtes certainement pas le seul. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé, motivé pour vous lancer dans des recherches sur l'histoire de Villeneuve-Tolosane et comment avez-vous procédé pour ce faire ?
Simple et compliqué à la fois. Mon niveau scolaire, bon, il était bon, mais l'histoire me déplaisait fortement. Mais j'ai eu une chance inouïe de rencontrer sur mon chemin, tout gamin, j'avais même pas 10 ans, Louis Béroc et c'est M. Simonet qui ont commencé les fouilles des néolithiques chasséens à Villeneuve. Voilà comment j'ai commencé à tremper dans l'histoire locale.
Comment vous avez attrapé le virus ?
J'ai pris le virus peut-être, si je peux dire que ce soit un virus. Mmh. Et à partir de là, pendant des années, avec des amis archéologues d'un côté et de l'autre, j'ai participé un peu à des fouilles sur le four de Bourdaïa à Muret, sur l'église Saint-Mars, et en fait, de façon ponctuelle, mes activités professionnelles étaient telles et tellement diversifiées, un peu sur l'Hexagone et même à l'extérieur, donc je ne pouvais pas trop faire d'histoire. Et en 1978, quand on a commencé à urbaniser la commune, à ce moment-là, j'étais élu municipal, avec un maire qui, il est vrai, était vraiment un érudit. Il aimait tout ce qui était musique, qui était art et tout. Et j'ai demandé à ce moment-là qu'on mette dans le permis de construire le fait qu'il y avait des fouilles à faire. Et ces fouilles, on les a organisées en 78 et 79, en camp de fouilles pendant les vacances. Et puis pendant le chantier, il y avait 196 maisons, pendant le chantier, le promoteur a joué le jeu et il a bougé le chantier d'endroit chaque fois qu'on trouvait quelque chose de façon à ce qu'on puisse travailler. Et ça, c'était quand même très important. Et là, c'était un site néo-chasséen. Et ce site néo-chasséen, il s'avère qu'il fait à peu près une trentaine d'hectares.
Ouais, donc il est très vaste.
Énorme. Ouais. Alors après, on peut toujours discuter de ce qu'on a trouvé. Ce sont des fouilles de galets.
On va en reparler, ça. On va en reparler. On rentrera dans le détail avec vous. Bon, je suppose qu'après, vous avez aussi demandé d'avoir un accès aux archives de la commune pour vraiment fouiller, explorer dans le détail tous les documents existants et pour retracer cette histoire, je le redis, cette longue histoire de Villeneuve-Tolosane. Merci pour ce témoignage. On sent déjà toute la passion qui vous anime et la connaissance que vous avez accumulée pendant toutes les années où vous avez étudié l'histoire de votre commune. Voilà qui éveille de belle façon notre curiosité pour en savoir plus. On fera ça en détail dans quelques minutes avec vous. Pour l'instant, nous allons retrouver Corinne Saint-Félix pour son flash d'information métropolitaine hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Nous allons commencer en vous donnant des nouvelles de la LGV, la ligne grande vitesse Toulouse-Paris, qui est de nouveau sur les rails, Corinne.
Oui, selon Jean-Louis Chosy, président du Conseil économique, social et environnemental régional d'Occitanie et d'Eurosud-Team, il y aura une grande ligne grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse avant 2030 grâce au financement des entreprises. Le chantier de la liaison à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse pourrait donc débuter en 2022. La loi d'orientation des mobilités promulguée promulguée en décembre dernier donne de nouvelles compétences aux collectivités territoriales pour organiser de grands travaux structurants en ayant recours à l'emprunt. Côté financement, les entreprises qui s'implanteront sur les zones d'activité de l'itinéraire du tracé de la LGV et qui bénéficieront de ces effets positifs devront payer une taxe 100% dédiée au remboursement de l'emprunt. Il faudra quand même trouver 7,5 milliards d'euros. Même sans la LGV, le projet urbain Grand Matabiau, lui, avance. Devant la gare, le parvis canal a été livré. Il prend la forme d'un grand espace ouvert sur le centre-ville historique. Le canal du Midi a été recouvert et 70 arbres ont été plantés.
Encore une nouvelle ligne maintenant, mais là on quitte le domaine ferroviaire puisqu'il s'agit d'une nouvelle ligne de production d'Airbus à Toulouse.
Oui, Airbus va installer une ligne d'assemblage supplémentaire à Toulouse pour y produire son A321 et répondre au succès commercial de ce monocouloir. Sur le site de production de l'A380, dont la production s'achèvera en 2021, cette ligne d'assemblage s'ajoutera à celle dédiée au A321 situé à Hambourg et qui fait face à une montée en cadence difficile en raison de la complexité de l'assemblage des différentes versions de l'A321 par rapport à son petit frère l'A320. Elle sera opérationnelle d'ici mi-2022 et emploiera 500 personnes. Selon Airbus, le site de Toulouse a été sélectionné pour plusieurs raisons. Compétitivité globale, délai de commercialisation, coût d'investissement, surface au sol et ressources disponibles.
Et enfin, une information importante qui nous concerne tous de près ou de loin, une semaine de lutte contre le cancer a lieu dans la Ville Rose avec la Toulouse Onco Week.
Oui, pendant une semaine, à l'occasion de l'Onco Week, Toulouse devient le lieu de rencontre privilégié de tous les acteurs de la lutte contre le cancer, scientifiques, cliniciens, personnels soignants, industriels, sociétés de biotechnologie, groupes pharmaceutiques, pouvoirs publics et associations caritatives. L'ATO, comme elle est nommée, est organisée en parallèle de la Journée mondiale contre le cancer qui a lieu chaque année le 4 février. Elle est rythmée par plusieurs événements, dont certains ouverts au grand public. Objectif, bien sûr, communiquer, comprendre et combattre le cancer. Thème de cette troisième édition qui se déroule du 1er au 5 février, la résistance thérapeutique. Toulouse Métropole, la Fondation Cancer Santé et Sceaux Toulouse sont associés à ces manifestations et à leur volet social et caritatif. En partenariat avec les étudiants de Toulouse Business School, la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne organise d'ailleurs une course 10 km chronométrée et un relais 3 x 4 km chronométrée. Un événement pour les sportifs aguerris avec un esprit festif et convivial qui récompensera la plus forte mobilisation de groupe mais aussi le meilleur déguisement.
Voilà pour l'actualité métropolitaine grâce au flash hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Retour maintenant au thème principal de cette émission que nous consacrons, je le rappelle pour ceux qui viendraient nous rejoindre, à la longue histoire de la commune de Villeneuve-Tolosane.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Suite de Métropolez-vous avec notre invité du jour, Jean Lagravère, villeneuvois et membre de l'association Histoire, Loisirs et Culture de Villeneuve-Tolosane. Pour commencer et même prolonger notre discussion, je vais vous poser la question rituelle. Quelle est l'étymologie du nom Villeneuve-Tolosane et à quelle époque la commune le prend-elle? Je crois qu'il y a déjà une histoire un peu insolite derrière cette affaire, Jean Lagravère.
Appeler insolite, oui, si on veut. D'abord, le lieu. Nous sommes partis d'un arrêté du Conseil d'État. Lorsque la commune, en 1896, a demandé l'autorisation de reprendre le nom de Tolosane, après s'est appelé, après la Révolution, Villeneuve-les-Cugnon. Et cet arrêté du Conseil d'État, c'est lui qui nous a mis sur la voie, dit « On peut redonner le nom de Tolosane parce que avant de s'appeler Tolosane, pendant 8 siècles, ça s'appelait Bayolville ».
Oui, rien à voir a priori.
Donc, en ce qui me concerne, j'avais fait chercher et publier les toponymes de la commune. Je connais bien la commune. Et Bayolville, nulle part. Ça a duré des années et on n'a pas trouvé. Entre-temps, nous avions même avec les amis du conseil municipal et de l'association écrit un bouquin qui s'appelle Villeneuve, 5000 ans d'histoire. Et après, on a fini par ouvrir la porte pour s'apercevoir que Bayolville, c'était sur la route qui longe la Garonne, entre Muret et Estantens.
Oui, en effet, c'est pas tout à fait le même coin.
C'est pas tout à fait le même coin. Et là, on essaie de comprendre pourquoi. Alors le pourquoi, il est simple. Ça s'est passé, d'abord, il y a eu, avant d'en arriver plus loin, il faut dire, Villeneuve, j'avais toujours entendu dire, mais sans aucune preuve, qu'il y avait deux petits hameaux qui s'appelaient les Carreaux ou Cagots, on ne sait pas, et Choutser ou des bas de serre, c'est-à-dire à l'abri du talus. Des traces, il n'y en a pas. Après, il y a eu le don par la famille de Caraman, Caramin, une espèce de petit oppidum qu'il y a, la construction du fort. Alors la construction du fort, c'est seconde moitié, c'est-à-dire 1150, puisque les religieux qui habitaient, c'était l'ordre de Saint-Lazare, qui a été fondé à Jérusalem en 1134. Donc, construction deuxième moitié. Mais on n'a pas de documents. Donc, on en est là, et puis, bon, il y a des moments où vous butez, vous ne trouvez plus rien. Et puis, on a trouvé ce fameux Bayolville. Et un jour, avec la présidente de l'association Histoire, et moi-même de mon côté, nous avons trouvé où était Bayolville. Nous avons essayé de comprendre ce qui s'était passé. Alors, nous avons découvert que Bayolville, ça a été démoli une première fois en 1098, et une partie sont venus habiter sur Muret. Ça avait été reconstruit. Et à l'avant-veille de la bataille de Muret, vous prenez la fameuse canzoun, chanson de la croisade, qui vous dit que Simon de Montfort avait passé sa nuit en prière, l'avant-veille, dans la ville cistercienne Saint-Pierre d'Aulne. Donc, pour venir d'Aulne, il ne faut pas oublier qu'il venait de mettre le siège de voie. Il est venu, il n'est pas venu, il avait les mains aux poches. Hein. Donc, pour venir sur Muret, il faut descendre le talus. Et le seul chemin qui est praticable à l'époque et qui existe, c'est les chemins de la Ferragne et le chemin de Tari. Et Bayolville se trouve en bordure de la Garonne, juste en bas. Il nettoie tout. Mais là, il reste une statue de la Vierge qui a été détruite une dizaine d'années. C'est resté longtemps. Dans les Villeneuvois, ceux qui vont devenir les Villeneuvois, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent la Garonne par un gué qui est au bout du chemin de la plage. Les gens qui connaissent se reconnaîtront. Ils traversent la Garonne et ils font le tour très loin derrière, en allant vers la Bastidette, un truc comme ça. Ils vont très loin parce que Seyss, il n'y a pas de fortification, il n'y a pas de château. Fouzain, il n'y a pas de château au 15e. Et Villeneuve, il y a le fort avec une abbaye, donc avec un mur de pierre dans les centres qui fait 50 cm. On l'a retrouvé, il fait 50 cm. Donc, ces gens viennent se réfugier dans cette abbaye. Donc ça, c'est une première chose. Alors, ce qui nous a après déclenché aussi d'autres recherches, c'est les armoiries. Les armoiries de Villeneuve, des messieurs de Saint-Lazare au départ, c'est un blason écartelé, qui est de gueule et d'argent, et sur ce blason écartelé, vont s'ajouter en premier temps une charge, c'est-à-dire, ils vont y ajouter des ocelles ou des amandes, qui sont les armes du Comminges, et qui sont les armes de Jean III d'Armagnac. Vous le trouvez dans un des quartiers des Armagnacs. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose qui m'a intrigué un petit peu plus, bon, je parlais à l'époque tout petit d'Occitan, ça ne me gênait pas, c'est que Villeneuve, la langue vernaculaire, ce n'est pas l'Occitan toulousain, alors que la limite linguistique, c'est entre Villeneuve et Fouzain. Les habitants de Villeneuve, les anciens, parlaient le gascon.
Oui, ce qui peut paraître très étonnant.
Proche de Toulouse.
Oui.
Donc c'est pas normal. Et c'est là où on a compris, mais alors, il s'est passé quelque chose.
Il venait d'ailleurs, en fait.
Effectivement, quand on est au Stantens, on est en Guyenne.
Et, oui. Et là, c'est le gascon.
Et là, c'est le gascon. Ouais. Donc, ils ont amené avec eux leur langue. Voilà, si vous voulez, un peu le cheminement que nous avons fait.
C'est pour ça que je disais que c'était insolite, un peu mystérieux aussi, et oui. Difficile à démêler. Hein. Il a vraiment fallu enquêter, bravo.
Et oui, c'était long.
Voilà, et puis donc, bon, ça devient Villeneuve, finalement, au 19e,
alors,
en fait.
On revient sur le nom de Villeneuve. Vous savez, il existe dans les villes, les fondations des villes, bien souvent, les bastides, c'est les grands seigneurs, les rois, et tout comme ça. Les sauvetés, c'est
ouais,
l'église.
L'église.
Et les Villeneuve, les Villeneuvois, il n'y a pas de charte comme les autres, ce sont les ordres religieux qui le font. Sachant que les ordres religieux sont des ordres souverains qui dépendent de la papauté et pas de l'évêque.
Directement de la papauté.
Ouais,
parce qu'effectivement, il y a beaucoup de Villeneuve en France, et
oui,
notamment dans notre région.
Mais hein, bien souvent, il y a eu un ordre religieux qui a fondé le village côté. Donc les gens, si vous voulez, quand ils ont quitté, on revient au départ de la bataille de Muret, les gens ont quitté, ils sont venus se réfugier là, et on a fondé...
Ils ont fondé,
en occitan, Bilonobo, Villa Nova, parce que il faut le prononcer en occitan.
La ville nouvelle. Et Tolosane, c'est parce que ça faisait partie du comté Tolosan, je suppose.
Tolosane, parce que ça faisait partie du comté Tolosan. Tolosane écrit avec un H.
Ouais, à l'origine.
Tolosane, voilà. Bon, après, ça c'est devenu à la Révolution. Donc, c'était le territoire. Villeneuve n'était pas une cure. Sur les cartes Castini, vous ne trouvez que le cure. Villeneuve, c'est écrit en italique sur les cartes Castini. Villeneuve, point à la ligne. Parce qu'il n'y a pas de curé. Donc, Cémone gérait un alleu, c'est-à-dire une bande de terrain qui était indépendante, en frontière de la Guyane quand même, c'est pas neutre. Hein. Voilà, donc voilà comment ça s'est passé, à peu près, d'après ce qu'on a trouvé.
Voilà donc l'étymologie de Villeneuve, et l'histoire d'ailleurs, de Villeneuve-Tolosane. Voilà. Alors, on remonte dans le temps, mais vous en avez déjà parlé, donc les premières traces de communauté sur le territoire actuel de Villeneuve-Tolosane, bah, donc c'est ce néolithique de l'époque dite chasséenne. Alors, chasséenne, c'est néolithique de l'époque chasséenne, c'est 5000 à 3500 ans avant Jésus-Christ, hein, pour être précis.
C'est le moment où les gens, les habitants sont devenus un peu plus sédentaires et ont commencé à cultiver, non pas simplement la cueillette.
Et puis, donc, époque gallo-romaine, pas de vestiges, emplacement d'une villa quand même, je crois.
Non, il y a eu un camp romain, un camp militaire romain.
Tout de même.
Il y a le camp, on a trouvé des pieux qui sont pourris dans le sol, dont on a trouvé
voilà, il y a quelques traces. Mais...
Et surtout, un romain, il faut chercher l'eau, la source qui était en bas du camp, qui aujourd'hui ne s'est plus visible, il y a 4 mètres de terre dessus.
Voilà. Alors les Visigoths qui ont été présents à Toulouse, autour, pas de traces par contre sur la commune de Villeneuve-Tolosane. Moyen-Âge, vous l'avez déjà dit, il ne se passe pas grand-chose jusqu'au milieu du XIIe siècle. Et c'est vraiment à partir du XIIe siècle que commence l'histoire de ce territoire.
C'est là où la population va se regrouper. Il ne va pas y avoir beaucoup d'habitants. En plus, c'est uniquement...
Il n'y a pas de seigneurie.
Il n'y a jamais eu de seigneur. L'alleu était... Alors ça aussi, c'est... Vraiment typique à Villeneuve-Tolosane, c'est une république avant l'heure, parce que l'alleu était dirigé par une assemblée de personnes, ce qui a trompé beaucoup de gens, le collège de Maguelone, pas collège bâtiment, collège assemblée de personnes, où il y avait 4 moines ou messieurs de Saint-Lazare et 2 laïcs élus chaque année à Pâques. Et ça a duré jusqu'à la Révolution. C'est quand même...
Oui, mais c'est particulier. Il y a beaucoup de choses particulières dans cette histoire de Villeneuve-Tolosane. Alors... Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, Ancien Régime, il y a des choses notables quand même où il n'y a rien de vraiment particulier.
L'Ancien Régime, bon, il y a eu l'incursion du Prince Noir qui a détruit...
Pour rappeler qui était le Prince Noir, parce que tout le monde ne le sait
Jean
pas forcément.
Jean III, le descendant d'un des fils d'Aliénor et d'Henri II.
Et d'Henri II.
Voilà, c'est des quatre descendants d'Aliénor.
Alors pourquoi il vient faire une incursion sur le territoire? Il y a une raison particulière.
Il est allé jusqu'à Narbonne et puis il est remonté.
Voilà, c'était sur son trajet en fait.
Pourquoi? Il faudrait peut-être lui demander, j'ai pas pensé.
J'inviterai la prochaine fois.
Voilà. Donc il a détruit le bâtiment conventuel, c'est-à-dire l'habitation. Et cette habitation qui a été détruite en 1355, elle ne sera reconstruite qu'en 1434, c'est-à-dire après la fin de la guerre de Cent Ans.
Cent Ans, juste après d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Et là, on a trouvé le bail à besogne, qui nous dit les noms des personnes qui ont travaillé.
Alors, il n'y a pas de château, évidemment, il n'y a pas de seigneur, il n'y a pas de château. Non. Mais là, il y a quand même des particularités. Il y a un fort, il y a un majorat. Qu'est-ce que c'est un majorat?
Alors, le majorat, c'est encore plus compliqué. D'abord, il faut faire de l'histoire. Les majorats, c'est quelque chose de très précis au niveau historique. C'est un titre, des revenus et des biens, le tout indissociable. Ça a été aboli, nuit du 4 août, on abolit les privilèges de la féodaux, c'est fini. On les remettra après à la Restauration, sous l'Empire. Des majorats d'Empire, il n'y a que 35. Ce n'est pas un majorat à Villeneuve. Alors, je vous dis pourquoi ça s'appelle majorat, parce que peu de gens le savent. D'abord, après je reviendrai sur celui qui a bâti le majorat. Mais pourquoi majorat? Parce que la personne qui avait acheté ce majorat, il était capitaine-major. Et il appelait ça le majorat.
Oui, voilà. C'était un grade en fait, un grade militaire.
Mais le bâtiment avait été, lui, édifié à la grande époque des vignobles de Villeneuve, puisque c'est que des vignes, par la famille Gravier. Alors, Gravier était un des juges au Parlement de Toulouse.
Ah, voilà.
Et après la réhabilitation de Calas et la purge qui en a suivi, on ne parle plus dans les documents que de Dame Gravier. Lui,
il disparaît.
Il disparaît de la circulation. Oui. Je ne sais pas s'il a été, comme beaucoup d'autres juges, mis hors de nuire, je ne sais pas. Voilà.
On peut le supposer.
Voilà.
Une chose aussi, les capitouls, est-ce qu'il y a des choses à Villeneuve-Tolosane? Est-ce qu'il y en a un qui a des propriétés, pas de traces?
Non, il y a eu la famille Pons, la fameuse famille Pons, mais qui avait des biens partout.
Oui, pas seulement.
Il y a une liste impressionnante.
Ouais.
Ils habitaient certainement Villeneuve parce qu'il y a un quartier qui, sur les cadastres, s'appelle Ponce, qui s'appelle aujourd'hui les Pousses. Mais c'est la déformation occitane du mont Ponce. Donc, il habitait là et il était notaire à Pensaguel en 1222. Puisque le document que nous avons de 1222, c'est hyper rare. C'est lui qui a écrit ce document. Ouais. Il était notaire à Pensaguel.
On arrive à la Révolution française. Alors, est-ce qu'il y a des choses à souligner?
Mais
des personnages à mettre en avant?
Des personnages, non, à part celui qui a été député de la Convention. Mais, si vous voulez, les biens de l'Église, les biens des moines ont été vendus.
Oui.
comme bien nationaux, donc ça a un peu déstabilisé. Mais je serais tenté de dire, après avoir cherché les noms des gens qui étaient un peu au pouvoir avant, et les gens qui ont retrouvé les conseillers municipaux et maires après, c'est le même nom. Hein. Alors, évolution, circonvolution, enfin, appelez-le bon. Ce que vous voudrez.
Oui, il n'y a pas grand-chose à
pas
signaler.
Il n'y a pas eu vraiment de la casse, vraiment.
Alors après, on en a déjà parlé dans cette émission, événement très important, début du 19e, en 1814, la bataille de Toulouse, et là, pas de passage des troupes ou napoléoniennes, ou anglaises, anglo-portugo-espagnoles.
Des on-dit, mais moi j'ai pas de preuve. Maréchal Soult serait passé par la rue qui s'appelle la Vimouna. Il aurait monté le talus, là, les 17 mètres, par là. Mais moi, j'ai pas de problème.
En tout cas, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas d'étape faite par une des troupes ou les autres qui auraient bivouaqué,
non, pas du tout.
En 19e siècle, tout de même, une chose à signaler, c'est qu'à l'époque, la grande activité, jusqu'en 1870, c'est la vigne. Aujourd'hui, évidemment, il ne reste pas grand-chose de tout ça, mais le territoire était couvert de vignes, ou presque.
Mais ce n'est pas que Villeneuve.
Oui, tout autour de Toulouse.
De la Ramée jusqu'à Saint-Élix, de Fossorbes jusqu'à Roques, toute la plaine, c'était que des vignes.
Ouais.
Villeneuve avait à peine plus de 700 hectares, avait 900 arpents de vignes. La pente toulousaine, c'est 56,90. Vous faites la multiplication, ça fait combien, 500 hectares?
Oui,
donc,
il y avait plus des 4/5 du territoire.
La deuxième grosse activité de Villeneuve, ça a été les Tuileries. Il y avait 3 Tuileries sur Villeneuve. Et j'ai retrouvé les endroits où ils avaient décapé, 23 hectares de terrain utilisés pour faire de la brique. Énorme. Énorme.
On arrive à...
Et la dernière Tuilerie ferme ses portes en 1916.
Pendant la Première Guerre mondiale.
Pendant la Première Guerre mondiale.
Mais on arrive à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation, la période de l'occupation. Alors je crois qu'il y a quand même une chose à signaler sur les territoires de Villeneuve-Tolosane.
Mais c'est-à-dire que quand les Allemands sont arrivés à la zone occupée, la zone sud, ça a été le 11 novembre 1942. Et quand ils sont arrivés, ils sont venus sur Villeneuve, ils ont pris une quinzaine d'hectares de terrain et ils ont établi un système de défense pour protéger au niveau aérien la base de Francazal. Ils ont installé, il y en avait 6 ou 8, je ne me souviens pas totalement du nombre, des canons Beaufort. Ce sont des canons, ce n'est pas des obus à percussion, ce sont des grenades.
À déflagration, plutôt.
À déflagration, voilà. Et il y avait un radar. Il y avait une installation radar.
C'était un des premiers à l'époque.
Ah oui, je n'avais jamais vu ça.
Ouais.
Et tout gamin, bon, l'anecdote, tout gamin, il n'y avait plus le matériel de repérage, mais il y avait des manivelles où on pouvait tout faire tourner. C'est un jeu, mon frère, c'était pire qu'un manège.
Pour les enfants d'époque, oui, ça devait être effectivement extrêmement amusant. Est-ce qu'il y a eu des personnalités marquantes dans la commune dont on n'aurait pas parlé à travers le temps, pourquoi pas au XXe siècle ou plus récemment d'ailleurs?
Non, fait marquante, il y a toujours des personnes marquantes.
Enfin, marquantes au-delà des frontières. Non, au-delà des frontières.
Des personnages, disons, qui sortent du commun, je veux dire.
Oui, oui.
Bon, il y a eu d'abord un abbé, enfin un curé, qui a fait un sacerdoce à Villeneuve de 63 ans.
Oui, ça déjà, c'est pas commun.
C'est énorme.
Ouais, ouais, ouais.
Énorme. Et puis, le maire qui a vraiment bougé Villeneuve. Après, disons qu'on a fini la période agricole pour rentrer à la période plus industrielle, ça a été André Passamard.
Il était maire à quelle époque, lui?
Mais il a été maire en 71 jusqu'en 2001 où il est mort.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est là où la bascule de l'agriculture s'est faite vers l'industrie complètement. Il n'y avait plus de...
Et voilà, alors c'est là qu'on en arrive, évidemment, à la période des Trente Glorieuses, donc après 1945. Voilà. Alors, je crois que la population décolle vraiment vers la fin des années 60, qui est assez typique des communes du pourtour toulousain, avec notamment l'arrivée des rapatriés d'Algérie.
Alors, les rapatriés d'Algérie. Alors, le phénomène est simple des rapatriés d'Algérie, si vous voulez, c'est que la première cité a été faite en 60-61. Donc, juste au moment où cette cité a été livrée à l'occupation, les rapatriés d'Algérie sont arrivés. Et il s'est trouvé que des gens qui avaient quitté l'Algérie un peu plus tôt, qui étaient surtout d'origine oranaise, ben, venez à moi, parce que chez lui, il y a de la place. Et là, on est monté de 560 habitants à 2000 habitants en 2 ans.
Oui, et après, ça a continué. 1500. Ça a continué régulièrement de monter. Et ça continue, d'ailleurs.
Ça continue. Mais ces gens-là, si vous voulez, se sont intégrés. Il n'y a pas eu de choc.
De culture, si on peut dire.
Non, non.
L'intégration s'est faite au fil de l'eau et de façon
ça s'est fait,
extrêmement pacifique.
Voilà.
Et...
Ils se sont intéressés aux activités communales. C'est important.
Et oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas vraiment de tissu industriel sur la commune.
Non,
je le redis, elle n'est pas très grande, hein, de toute façon.
Non, elle n'est pas très grande.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ces communes dortoirs du pourtour toulousain?
Oui, je vais être méchant, mais c'est un peu des communes sans âme.
Ouais.
Donc, bon.
Il reste quelques espaces quand même naturels, malgré le fait que la surface ne soit pas immense.
Un espace vert, il doit y avoir plus, je crois, c'est 23 hectares. qu'ils soient soit bloqués, soit...
Soit préservés.
Soit préservés.
Voilà, pour préserver aussi la qualité de vie, la possibilité de se promener.
D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, dans ces hectares-là, il y en a une parcelle qui est en plein village, où il est interdit de construire, qui est en réserve de fouilles.
Ah oui. Donc c'est pour des raisons en fait archéologiques.
Archéologiques.
Voilà, c'est pas de la protection d'espace naturel.
Non, c'est une réserve de fouilles.
Ouais.
Parce que comme on n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est, 8000 mètres carrés.
8000 mètres carrés tout de même.
Ouais. Ah oui, oui.
Voilà. Donc ben voilà, donc pour l'histoire de Villeneuve-de-Lausanne à travers les siècles, une histoire chaotique un peu.
Ah oui, chaotique.
Mine de rien, et ben on arrive à la fin de cette émission. Merci infiniment d'y avoir participé, Jean Lagravère, et d'y avoir apporté toute votre érudition et votre passion pour l'histoire de Villeneuve-de-Lausanne, la commune où vous êtes né et que vous habitez toujours, dont vous savez si bien transmettre l'histoire. Bravo pour tout le magnifique travail de recherche et de vulgarisation que vous avez réalisé au sein de l'association Histoire, Loisirs et Culture de Villeneuve-de-Lausanne. Une histoire qui détonne un peu parmi celles des autres communes métropolitaines. Il semble qu'il y ait de vraies différences d'ailleurs entre les communes qui sont du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de Toulouse métropole. Villeneuve-de-Lausanne est en tout cas une commune qui gagne à être connue, comme vous avez pu le constater tout au long de ce numéro. Le numéro suivant sera consacré à la commune de Mondonville, située elle, à l'ouest du territoire métropolitain. Une autre histoire à découvrir. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.